Le gang des histoires. Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter sur le podcast de Miroco Rebelle, mais aussi sur PFM 99.9, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Lily. Bonjour Lily.
Bonjour.
Nous sommes avec Marin.
Salut.
Et nous sommes aussi avec Touga.
Salut tout le monde.
J'allais dire on est de retour, mais on n'a pas coupé.
C'est encore nous.
Intro en fait, musique.
On vient juste de démarrer. Bonjour, bonjour, bonjour.
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 Nous sommes contents de vous retrouver après ces longs moments.
C'est mois d'interruption.
Exactement.
Ouais, c'était long.
On a eu une petite remise à niveau de la chronique badass, si vous avez écouté l'émission du mois d'avril, pour pouvoir... combler vos longues heures de confinement chez vous.
Mais c'était long. Hein.
Ouais. Mais nous sommes là, de retour, prêts à vous enchanter les oreilles. Et on va commencer...
Surtout avec mon accent, par exemple. Ça m'avait manqué.
Et on va commencer donc par notre petit agenda. Agenda des festivités, manifestations et compagnie. Bon, ça va être rapide, je vous préviens. Petit rappel par rapport au bar LGBT. Le local du planning familial n'étant pas encore ouvert, on ne prend pas de risque, même si on a envie de vous retrouver. On attendra le mois de septembre pour pouvoir reprendre les bars LGBT. Donc, je rappelle, c'est le premier vendredi du mois. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le 4 septembre. Le vendredi du... Le premier vendredi du mois. On vérifiera tout ça.
À partir de 17h.
Exactement. Donc toujours à partir de 17h au local du planning familial du Pas-de-Calais, 45 rue François Gauthier à Lens.
Ouais, c'est bien ça, le 4.
Bah, parfait. Merci la rentrée scolaire. à propos de tout ça, on vient de passer un mois des fiertés un peu bizarres. Étant donné que c'était le début du déconfinement, mais qu'on ne pouvait pas se regrouper, etc. Donc, suivant les différents pays du monde, on a eu soit des prides virtuels où on avait des animateurs qui mettaient de la musique, de l'ambiance pour qu'on puisse s'enjailler chez nous quand même.
Ouais, alors attends, moi je vais refaire chacun, tu vois, on revient, c'est un peu comme une rentrée, je vais refaire ma cis hétéro de base.
Vas-y, repose tes questions.
Et voilà, je vais redemander si tu peux resituer par exemple le mois des fiertés, c'est-à-dire du coup, voilà,
alors,
explique-nous un peu quel mois, comment, pourquoi.
Alors le mois des fiertés, c'est à dissocier du 17 mai qui est la journée de lutte internationale contre les LGBT-phobies. Et c'est en fait le mois où toutes les fameuses prides, je rappelle qu'on ne dit pas gay pride parce que dans les prides, dans ces marches, il n'y a pas que des gays, d'accord ? Donc c'est un mois où en fait toutes les manifestations en lien avec des prides ou des marches des fiertés, etc. sont organisées. En tout cas, c'est dans ce mois-là où la plupart se déroulent. Il y en a qui commencent dès mai, il y en a qui sont plus juillet-août, mais le mois de juin, c'est le mois des fiertés où on célèbre et on manifeste pour les droits LGBTQI+.
Oui, parce que Pride, du coup, en anglais, c'est fierté.
Exactement.
Voilà, c'était ma parenthèse explication, s'il vous plaît, un peu de
merci.
Définition du dictionnaire.
Et à propos de ce mois des fiertés, donc on a eu samedi 4 juillet une manifestation de certains collectifs à Paris qui ont voulu organiser cette Pride de manière, on va dire, plus militante et moins festive que d'habitude. Ça n'a pas plu à d'autres, mais bon, ça, il y a toujours des rageux pour aller. Et à propos de ce mois des fiertés, Marin, tu voulais nous donner une bonne nouvelle pour le territoire du Douaisis.
Oui, donc la Maison des potes du Douaisy, qui est une association qui travaille sur tout l'arrondissement du Douaisy, va porter un centre LGBTQIA+. Et ça, c'est tout récent, puisque ça date du 1er juillet. Pour le moment, deux permanences sont prévues par semaine, donc le mercredi de 17h à 20h et le samedi de 15h à 19h. Donc c'est un lieu d'accueil pour toutes les personnes se reconnaissant dans les identités LGBTQIA+. Un lieu de sociabilisation, de rencontres, d'échanges, de ressources aussi documentaires, de dialogues, de questionnements, de débats, et un lieu d'accueil pour les personnes qui seraient confrontées à des discriminations et autres, malheureusement, avant réorientation auprès des professionnels.
Puis qui pourraient se sentir isolés.
Oui, tout à fait. Sur le côté lien social et création d'un réseau et de faire peut-être, pourquoi pas, émerger une vie culturelle et sociale LGBTQIA+, sur le Douaisy, ce qui est pour le moment, inexistante. Ça peut être très intéressant, très chouette. Donc une équipe de bénévoles qui, au sein de la Maison des potes du Douaisy, s'emparent de leur lutte, de leurs besoins, de leurs attentes et mettent en œuvre plein de choses, mettent leur énergie au service du collectif pour créer des moments chouettes et puis de la ressource, quoi.
Et donc, tu as l'adresse exacte ou alors on la mettra peut-être en lien
C'est rue du 4 septembre à Douai. Et je ne connais plus le numéro, c'est peut-être 340 avenue du 4 septembre.
Je suppose que sur les réseaux sociaux, Internet, on peut retrouver...
Oui, il y a une page Facebook qu'on peut aimer, oui, tout à fait.
Pouce en l'air.
Pouce en l'air, centre LGBT+, du Douaisy. Ouais.
Puis on mettra peut-être les infos sur la page du gang.
Oui, tout à fait.
On pourra faire ça.
Et on pourra faire ça, effectivement.
On pourra faire ça.
Merci Marin pour toutes ces explications et enfin une bonne nouvelle après tout ce qui vient de se passer, c'est quand même, ça fait du bien.
Ouais.
Quoi d'autre? Je ne sais plus. Lily, aide-moi.
On est allé un peu vite peut-être, alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, si on reprendra ça peut-être plus tard, mais sur l'idée que tout compte fait, il y a l'air d'avoir, il y a toujours plein de mouvances dans des mouvements, c'est-à-dire pour ça que c'est un mouvement, c'est pas un truc figé et sclérosé, mais du coup il y aurait...
Mais c'est pas l'UMP pour autant.
c'est sûr. Mais sur le fait qu'il y ait je vois tout de suite poindre toute déclinaison automobile, mais non, c'est pas ça. ouais, c'est mon petit côté.
Il fallait le faire.
Du bassin minier et tout, excusez-moi.
Poète.
Du coup, il y a effectivement de nombreuses personnes qui souhaiteraient que la marche de fierté, ou alors plutôt la Pride, elle reste sous la forme de ce qu'on appelait avant, comme tu l'as dit, la Gay Pride, puisque ça ressemble beaucoup à une technoparade, j'ai envie de dire, en fait, dans les gens qui sont peu initiés, qui ne sont pas issus de la communauté, mais qui sont pas hostiles. On aime bien la Pride parce qu'effectivement, c'est gay dans le sens joyeux. Pardon, je vais arrêter de faire des blagues.
Ça nous avait manqué. Non, ouais, tu peux.
Pardon,
tu peux. Ça nous avait manqué.
Je m'avais demandé de sortir.
non, genre, on en a besoin.
donc effectivement, il y a cette envie de prendre la rue et d'afficher la joie de vivre, la joie de se retrouver, la joie de prendre la rue. Et puis, il y a aussi tout un groupe qui dit c'est pas incompatible, cette joie, avec le fait que ce soit une marche des fiertés et que tout de suite, on entend autre chose. Quand on marche pour ou on marche contre, mais là, on marche pour la fierté. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de discrimination, de haine, de difficultés et de bâtons dans les roues mis aux personnes membres de la communauté LGBT.
Il y a plus,
tout ça. Et là, apparemment, ça se tend là, cette année. Donc, j'aurais bien aimé qu'on en rediscute un petit peu.
Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que les collectifs parisiens qui ont mis ça en place, enfin, en tout cas, les assos qui ont monté ça, ont monté un peu à la va-vite parce que je crois que ça a dû se faire en 2-3 semaines.
Donc,
déjà, le temps de réunir tout le monde. C'est vrai que... vu que c'était des associations, bah, ça a été plus militant que d'habitude. Donc, bah, forcément, des revendications avec des panneaux, enfin des slogans assez forts. Je pense que cette année a été vraiment très marquant au niveau des revendications et même des messages qui pouvaient être visibles pendant la Pride. Et en fait, ça n'a pas plu à certains et même à certains de la communauté. Enfin, certaines de la communauté. Parce que c'était trop militant.
Trop politique
voilà. Et à traiter ces assauts d'extrémistes gauchistes parce qu'on a redonné parce que ça a toujours été ça à la base, mais on a redonné le côté politique militant de revendication des droits pour les personnes LGBTQI+, qui n'est pas pourtant il y a les personnes qui sont allées ont fait la fête hein. Il y a eu la musique, il y avait des petites camionnettes qui ont quand même mis un peu d'ambiance. Mais vu que tout le monde n'y est pas allé et qu'il n'y avait pas 10 000 personnes dans les rues...
Ça a été moins noyé probablement que les années précédentes, c'est ça que tu veux dire ?
Il y a eu ça, et oui, noyé dans la partie festive, il y a les gamins, même quand je parle des gamins, il y a beaucoup de plus en plus de lycéens, lycéennes qui viennent parce que c'est un mouvement de joie. Et j'ai l'impression aussi que cette population... peut-être plus ouvert d'esprit. Et donc se dire, on va faire la fête et en même temps, on les soutient, ça peut faire bien. Mmh. Mais ça a été la confusion cette année par rapport à tout ça.
Mais c'était quoi un peu les mots d'ordre du coup, qui ont été mis fort en avant du coup,
les mots
année,
d'ordre, ça a été surtout une des phrases moi, qui revient beaucoup dans ce que j'ai lu, ça a été, il ne faut pas oublier qu'on a commencé à avoir des draps, on en a toujours eu, mais des droits, on a commencé à avoir des draps.
Des droits
grâce à une personne qui était trans, racisée et travailleuse du sexe.
Ouais. D'accord.
Et bim.
Et donc, il ne faut pas oublier toutes ces personnes-là. Et sans ces personnes-là, on n'aurait peut-être pas les droits. Alors, quand je dis « on », c'est la communauté LGBTQI+, mais on n'aurait pas les droits qu'on a aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que ces personnes, aujourd'hui, parfois dans la communauté, c'est celles qui sont encore plus agressées, même au sein de la communauté LGBTQI+, et même dans tous les milieux, au final. Ouais,
toujours précarisées et invisibilisées. Et bon, là, on ne va pas parler à leur place, mais effectivement,
alors
c'est
que
celles et ceux
Les personnes, parce que ce soit Marsha P. Johnson ou Sylvie Rivera, je crois que Sylvie Rivera était d'origine hispanique ou latine, donc elles étaient trans. Ben, les personnes trans aujourd'hui, c'est pas encore ça. Les personnes racisées, encore moins. Et les travailleuses du sexe attendent toujours que la fameuse loi sur la pénalisation des clients soit enlevée, quoi. Donc il y a tout ça qui est revenu sur le devant. On a beaucoup eu aussi des personnes, toujours par rapport au VIH, SIDA et les personnes qui sont séropos, donc séropositives, donc qui sont positives au VIH dans leur test de sang, parce que y a de plus en plus de personnes, t'es séropo, donc tu n'es pas clean. Le terme, la fameuse sérophobie, et qui ont peut-être des envies de se mettre en couple ou juste de coucher avec des personnes, mais vu qu'ils sont extampillés VIH-SIDA, ne trouvent personne, même pour s'amuser un petit peu, quoi. Donc c'est toutes ces revendications qui ont été mises en avant et que certaines n'ont pas aimé cette année, en tout cas.
Et est-ce qu'il y a une... qu'on appelle ça est-ce que les mouvements se sont rejoints avec par exemple ce qui s'est passé ce qui se passe depuis des siècles aux États-Unis sur la violence envers les Afro-Américains, puis les violences policières en fait tout du coup.
Alors effectivement le cortège de texte de j'y arriverai pas aujourd'hui hein. Le cortège de tête de la Pride de Paris était cortège non mix racisé. Donc eux étaient devant et dans la partie avant du cortège, on avait donc la partie sur revendication des personnes racisées et travailleuses du sexe, mais on avait aussi...
Et puis racisées, préciser que, parce que c'est pas un terme qui est courant, c'est maintenant devenu courant dans les milieux militants qui travaillent autour des droits humains. Oui. Mais racisée se dit d'une personne qui est ou peut être victime de racisme, c'est ça en fait.
Entre guillemets non blanche.
Ça sous-entend du coup qu'elle soit non blanche.
Et donc, à côté de ces revendications, on avait une super banderole où il y avait marqué ACAB.
D'accord. All donc, cops all are bastards.
Exactement. Ah. Et donc, en fait, des policiers sont venus. Les policiers sont venus en disant ça fait un peu moyen. Et sauf que les personnes tenant cette banderole étaient des lesbiennes. Et donc, ils ont répondu aux policiers que ça ne voulait pas dire donc, all cops are bastards, mais.
All clitoris are beautiful.
Voilà, donc tous les clitoris sont beaux.
Et c'est le titre d'une chanson d'un groupe lillois.
Donc je trouvais que la réponse, ça sonnait bien en plus.
C'est
pour.
Qui s'appelle L'O.
L-A-W.
Et donc ça passait super bien en mode bah non, c'est pas ce que vous croyez. Non, voilà, c'était. Il y avait ça par rapport à...
Oui, parce que aussi on sait que entre les travailleurs, travailleuses du sexe et les personnes dites racisées, en tout cas les personnes non blanches, les personnes de milieu populaire aussi, sont bien plus victimes de violences policières. Et donc il y a les personnes de la communauté LGBT croisant tous ces systèmes d'oppression sont nécessairement plus victimes de violences policières quand on veut bien... accepter que ça existe.
Ouais. Poisson rouge. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les revendications de cette année. Et peut-être...
Ouais, oui, mais Mara. Du coup, excuse-moi, oui, je te coupe la parole.
Il n'y a pas de souci, on est là pour ça.
Sur l'enchaînement, c'était parler de... Oui, oui, il y a énormément d'événements qui ont été soit annulés à travers le monde, soit reportés. Il y a des petites choses qui se passent, des choses en ligne, des choses... dans la rue, effectivement, dans l'espace public. Et près de chez nous, c'est la semaine du 17 au 27 septembre. Ouais, avec une marche des fiertés le 26 septembre à Lille, qui est identifiée comme séance de rattrapage et de... Et voilà, pour vivre ce mois des fiertés et ces luttes ensemble avec un petit peu de décalage, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, je me demande si le 26 septembre, c'est pas la journée internationale de la contraception ou de l'IVG.
Il y a des chances que ça soit...
En tout cas, c'est dans ces eaux-là.
Tout à fait.
Ouais, ça me dit quelque chose maintenant que tu en parles. Ouais, ça va être bien ça. Et pour les personnes qui souhaitent aller, entre guillemets, faire la fête à Paris, la marche des fiertés qui a été décalée, donc pas celle qui s'est passée le 4 juillet. Alors là, par contre, à Paris, sortez votre merveilleuse doudoune à petit boudin, la plus jolie fille, parce que ça sera le 7 novembre. Ouais. Donc, si vous voulez, vous pelez les miches à Paris, mais quand même
manifestez. Les paillettes vont rester collées au trottoir, là.
Fausse fourrure et moon boots.
Ça va être ça, la doudoune arc-en-ciel et compagnie vont être de sortie... Donc, si vous voulez aussi aller manifester à Paris, ça sera cette fois le 7 novembre.
Ouais. Et du coup, sur les événements, là, pareil, rétro-pédalage, mais sur des petits articles que j'ai pu lire relayés par Comitide, et qui étaient sur un groupe Marche des Fiertés, il me semble, parce qu'on basculait sur ce site, il y a l'équipe de foot des Dégommeuses qui a aussi fait un événement. Donc, ça devait être le week-end dernier, samedi.
Donc, le 4.
Oui, voilà, soit tout fin juin, soit tout début juillet, et avec une petite parade sur le canal de l'Ourcq à Paris, et avec une prise de parole militante, engagée et intersectionnelle avec la parole donnée aussi à toutes. Voilà.
Tu t'es bon ?
Oui, bah oui.
L'agenda Q.
L'agenda Q, le nouvel agenda culturel du gang des hystéries. Qu'avons-nous dans les boîtes à proposer pour cet agenda Q?
On nous a glissé dans l'oreillette le fait que l'on pouvait avoir accès à un documentaire de Lisa Biluard Monet, bon, je m'excuse si je prononce pas bien, et Daphné Leblon. Qui se sont attaqués au tabou de la sexualité des femmes et qui ont donc produit un documentaire dont le titre est « Mon nom est Clitoris ». Et apparemment, ce documentaire est visible sur la plateforme La 25e Heure.
Oui, il arrive sur la plateforme un peu en décalage après sa sortie, il me semble. C'est ce qu'on nous...
C'est ce qu'on nous a glissé dans l'oreillette.
Ouais, exactement.
Donc, on nous conseille. Donc, moi, je ne l'ai pas vu. Hein, c'est pour ça que j'ai l'air de ne pas savoir de quoi je parle. Excuse.
Donc là, on n'a pas vu grand-chose.
Voilà. Ça sera l'occasion.
Voilà, on va le voir. Et puis, ce sera peut-être l'occasion qu'on en reparle. Notre moment où on pourrait faire toute une émission sur l'anatomie et la sexualité.
Oui, en plus, tu n'avais pas un autre livre à conseiller que tu...
Tout à fait.
Si, tout à fait.
Aux éditions Marabout.
Oui, mais alors comme vous m'aviez dit juste avant, hors oreillette, que...
Bah tu lances là-dessus, donc
fallait qu'on
c'est
le
Jouissance
lise,
Club.
Nanana et tout, donc du coup, là, excusez-moi, j'ai pas mes notes.
C'est
donc,
Jouissance c'est, Club.
Voilà, Jouissance Club, une cartographie du plaisir, donc aux éditions Marabout. Alors, l'autrice est... voilà, j'ai vraiment pas choisi des trucs faciles aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se prononce, June Plat, mais comme il y a des trémas... Et des
tildes,
je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse par avance. Mais donc, c'est, ça nous donne la possibilité de voir de manière, sans faire de jeu de mots, plus approfondie, l'anatomie, notamment des parties génitales, enfin, notamment presque que des parties génitales, de tout ce qui peut englober les parties génitales et des pratiques sexuelles. Mais pas en version médicale, en tout cas pas trop médicalisée. C'est-à-dire, c'est vraiment.
De la vulgarisation.
Voilà, c'est de la vulgarisation. C'est pour découvrir son plaisir ou le plaisir de l'autre. Et c'est basé, l'autrice a basé ça sur plein de témoignages, plein d'entretiens pour comparer en fait les ressentis, les pratiques. Et voilà, et il y a plein de dessins très explicatifs. Ça a l'air chouette.
Encore mieux voilà. Qu'en cours de sexualité que vous avez eu au collège.
Ouais, ou que vous n'avez ça pas eu au collège.
Aussi.
Voilà, surtout.
Sauf si vous êtes passé avec moi.
Voilà. Mais tout le monde n'a pas un super prof de sciences nat qui n'a pas honte de parler du
Est-ce
corps.
Est-ce que t'es, s'il te plaît, sciences nat?
Non, mais moi je l'ai dit que j'étais une vieille ringarde. C'est comme ça. Hein. Donc oui, un prof de SVT qui n'a pas peur de discuter des corps sexués et de sexualité. Et de reproduction, mais voilà, dans une version concrète de la reproduction, quoi. Pas les abeilles et les gamètes, quoi. C'est toujours très intéressant de le savoir, hein. Moi ça me passionnait. Hein. Mais bon, voilà, en même temps, les gamètes, tu te fais une belle jambe hein, quand t'es en train de te faire chier, tout ça. Bon. Ou alors quand tu dis merde, est-ce que j'ai chopé une vieille IST ou est-ce que je vais pas être en cloque Voilà, bon bref. Bon, j'arrête. Ok. J'avais autre
mais
chose.
Mais pas de
souci,
non. T'étais lancé. Nous, ça comble le temps. Hein, tu sais, on a encore un petit peu de temps.
J'ai encore de choses à vous dire. Moi, je voulais conseiller une lecture aussi et faire un combo prisme de genre et de par chez nous, puisque c'est une autrice Samira El Hayashi. Et si je ne m'abuse, elle est. Si ce n'est de Lens ou de Méricourt, en tout cas, elle est de l'ex-bassin minier.
Du coin.
Voilà, et du coin. Elle est de notre coin. Voilà. Et elle a sorti, donc c'est septembre 2019, hein, c'est pas non plus là tout de suite, mais j'ai pu le lire pendant le confinement. Voilà. et donc, elle a écrit « Les femmes sont occupées ». Et qui est vraiment très chouette, très très chouette. Et qui peut déboulonner pour plein de gens qui ont l'impression que, bon, en même temps, les femmes, ce qu'elles font, c'est quand même, c'est normal, quoi. Voilà, les femmes, elles font plein de trucs, mais on le voit pas, on le remarque pas. Hein, ça s'est un peu vu pendant le confinement, on a découvert que plein de femmes faisaient plein de trucs, et que, ah merde, et qu'une femme, elle était partout, quand même. Elle était,
infirmière,
elle était sous-payée, elle était nommée là, elle était, voilà, tout partout, mais elle n'est pas première ministre. Une femme, non, c'est pas possible. Mais bon, donc Samira El Hayashi, elle nous explique que... Une femme doit monter une pièce de théâtre, finir sa thèse, lancer une machine, régler des comptes ancestraux avec les pères et les patrons, faire la révolution tout en changeant la couche de petites choses. Au passage, casser la figure à maman ours et tordre le cou à la famille idéale. Voilà, réussir les cadeaux d'anniversaire, blablabla. Elle doit tout faire, une femme. Et donc, ça vaut le coup. Alors, évidemment, pour une femme, on lit ça et on se dit « Oh bah tiens, c'est ma vie, une femme. » Mais une femme, c'est moi. en fait. Et donc voilà, on aurait peut-être l'impression d'enfoncer les portes ouvertes quand on en a ras-le-bol d'être une femme. Après, quand une femme, on n'est pas au courant qu'on était une femme, ça peut être sympa de se dire « Ah putain, c'est vrai que j'en fais des trucs quand même toute la journée, c'est quand même incroyable hein, !» et qu'on pourrait un peu redorer un peu mon blason, voire me payer plus, tout ça, tout ça. Et puis pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que la vie d'une femme, ça vaut le coup de lire ce bouquin-là et de se dire « Oh putain, il faudrait peut-être que je m'intéresse un peu et que... vulgairement, je me sorte un peu les doigts du cul et que j'en fasse un peu plus à la baraque ou au boulot, par exemple, ou que je laisse un peu plus de place, surtout au boulot. Non, ça peut être... Voilà, je vous le conseille. Les femmes sont occupées de Samira El Hayashi. J'imagine qu'il y a eu plus classe comme présentation avec un langage plus châtié pour un bouquin dans un agenda cul. Enfin bon, on était partis comme ça.
Bah, écoute, moi, sur la plage, en train de bronzer avec ce petit bouquin, moi, ça me dit bien, hein, ça me tente bien, écoute.
Voilà.
Donc
Et puis on avait un autre film, hein,
Marin,
tu voulais nous parler.
Oui. Mais alors là, pareil, vous parlez de quelque chose que j'ai pas encore vu, mais qui me donnait
on s'en fout,
bien envie d'y aller. J'y vais dans deux jours, donc voilà. Non, c'est en lisant un article sur Committed, qui est partenaire du film Brooklyn Secret. Vous m'excuserez pour mon accent déplorable depuis tout à l'heure entre ACAB et ce titre-là. Ben voilà, une réalisatrice,
Isabelle Sandoval,
voilà, qui a écrit, réalisé, monté et qui interprète le rôle principal d'une jeune femme. Voilà, alors c'est un drame, ça semble tourner autour d'une rencontre, et d'une rencontre humaine et amoureuse, et là, il va falloir
verra bien
parce qu'il va falloir que je retrouve des éléments
on verra
pour,
bien,
pour
on va aller le voir.
C'est quoi les thèmes abordés, en fait?
Alors, c'est très délicat parce que...
Il ne faut pas divulgâcher.
Oui, tout à fait. Mm. Et aussi parce que
c'est le terme français de spoiler.
Ouais, je l'aime beaucoup.
J'aime beaucoup aussi, je vais te le piquer.
Oui. Non, il est chouette, mais c'est juste qu'en fait... Quand je lis ces articles avant de me coucher, ben effectivement, ma mémoire ne capte pas tout. Mais j'ai eu envie, on va en rester là,
transmettre. J'ai eu envie d'aller voir ce film et de savoir qu'il était réalisé et interprété par une personne,
la première concernée du sujet qu'elle avait envie de défendre. Ben, c'est toujours un gage de ne pas être à côté de la plaque. Et voilà.
Très bien.
Mais il y avait une petite subtilité, effectivement, je l'ai perdu, donc ça, c'était un peu bête peut-être de vous parler de ce film, mais bon, juste de ne pas l'oublier dans les mois à venir s'il repasse.
On mettra un lien vers la bande-annonce, comme ça, au moins, ça vous dit, on met le lien sur Micro Rebelle.
Très bien.
Et si ça vous dit, vous irez le voir. Ben, si vous
voulez pas, je ne sais pas s'il va rester très longtemps à l'affiche dans les conditions actuelles de sortie des films, tout ça, mais
si vous le voyez, chopez-le, quoi. Voilà. Et puis vous pouvez toujours nous écrire pour nous faire une petite critique
pour dire ce que vous en avez
avec un prisme de genre sur la manière dont on regarde un film, c'est pas pareil.
Ouais, exactement.
N'hésitez pas. On a une nouvelle chronique aujourd'hui dans le gang des hystéries.
Effectivement, c'est la petite nouveauté post-confinement, on va dire. On a beaucoup travaillé pendant le confinement. pas beaucoup travaillé, mais beaucoup réfléchi.
C'est ça. C'est important.
Ouais, grâce à
la disponibilité mentale.
Effectivement. Grâce à Touga, on a eu une nouvelle idée. Elle s'est empressée de nous mettre tout ça sur papier. Et donc, nous allons vous présenter une chronique tournée sous forme d'interview, de moyens de contraception, de moyens de protection et même de petites bébêtes qui nous font gratter un peu partout. Et donc voilà, on vous laisse avec ça. Et puis on
interview Micmac. Non, l'émission Micmac.
L'émission Micmac avec l'interview qui gratte. Et on se retrouve juste après.
L'émission Micmac. L'interview qui gratte.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Micmac pour l'interview qui gratte. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons la chance de recevoir deux invités de marque, Préservatif et Chlamydia. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ah, salut tout le monde.
Alors, tout d'abord, pour commencer, je vous demanderai de vous présenter en quelques mots.
Je m'appelle Préservatif, j'ai deux fonctions dans la vie. Je suis un moyen de protection face aux IST et je suis un moyen de contraception.
Ah, bref, t'es moyen, quoi.
Chlamydia, je vous en prie, on va essayer de ne pas s'interrompre. Alors justement, en parlant d'IST, chlamydia, vous êtes concernée. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?
Alors IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible. C'est effectivement mon job. J'infecte les humains. Et l'autre, il croit qu'il peut m'en empêcher.
L'autre a un prénom, je vous signale.
Bon, essayons de rester concentrés, s'il vous plaît. Je sens que cette interview va être compliquée. Alors, préservatif, parlez-nous de votre création et de votre composition.
Mon parent direct est né en 1855 et était composé de latex naturel. Moi, je suis né dans les années 1930 et je suis composé de latex synthétique. J'ai des ancêtres depuis l'Antiquité sur toute la planète, fabriqués, eux, en vessie ou intestin d'animal, en papier de soie et même en écailles de tortue. Quant au latex synthétique qui me compose, c'est un matériau élastique élaboré par transformation d'un suc végétal produit par l'EVA. Il peut aussi être synthétisé par polymérisation à partir de dérivés pétroliers.
Quelqu'un comprend ce baratin ?
En effet, la polymérisation désigne la réaction chimique ou le procédé par lesquels des petites molécules réagissent entre elles pour former des molécules de masse molaire plus élevées.
Et j'ai deux formes différentes. En effet, je peux me mettre sur un pénis ou dans un vagin. Et dans ce cas, je suis composé de polyuréthane ou de nitrile synthétique pour éviter les problèmes d'allergie du latex.
Vos deux formes ont-elles la même fonction ?
Oui, tout à fait. La différence serait que sur un pénis, je ne peux être mis qu'à la dernière minute sur le membre en érection, alors que dans un vagin, je peux être mis à l'avance. Dans tous les cas, je ne suis qu'à usage unique. Et si je craque, il faut faire attention car il y a le risque de transmission des fluides.
Mmh. En effet, tu craques ton slip, c'est le cas de le dire.
Chlamydia, venons-en à vous. Présentez-vous en quelques mots.
Je suis une bactérie du nom scientifique de Chlamydia trachomatis. Et oui, je ne suis pas un vulgaire bout de plastique fabriqué par l'être humain. Je voyage d'un corps humain à un autre en étant présente dans le sperme, les sécrétions vaginales et anales, et l'urine, lors de relations sexuelles avec pénétration orale, anale ou vaginale, et sur les jouets sexuels.
Une fois que vous êtes installé dans le corps d'un être humain, cette personne s'en rend-elle compte ?
Et non, ma qualité première est l'art de la discrétion. La plupart du temps, l'humain n'a aucun symptôme. S'il s'en rend compte, c'est une à deux semaines après ma contamination. Et dans ce cas, le résultat est désagréable. Oh oui, j'adore ! Brûlures, écoulements anormaux ou saignements par la verge, l'anus ou le vagin. Fièvre, douleur abdominale. Mon pouvoir est immense. Et en cas de complication, il y a un risque de stérilité, de grossesse extra-utérine et de transmission au nouveau-né lors de l'accouchement si la mère est infectée.
Vous devriez avoir honte de vous réjouir de tant de malheurs. Heureusement que je suis là, ainsi que Monsieur Antibiotique.
En effet, préservatif, votre rôle est majeur pour stopper la contamination de chlamydia d'un corps à un autre.
Oui, je suis le seul à l'heure d'aujourd'hui à pouvoir éviter la contamination. Et au moindre symptôme, ne pas hésiter à faire un diagnostic. Prélèvement à l'entrée du vagin ou de l'anus, ainsi que prélèvement au niveau de la gorge et analyse d'urine. Pour le traitement, Monsieur Antibiotique vous sera délivré et vous serez guéri.
Merci beaucoup pour vos précisions. Avant de nous quitter, avez-vous un dernier mot à ajouter ?
Pouf, ne croyez pas que vous m'aurez comme ça.
Moi, préservatif, je suis facile à trouver en pharmacie et en supermarché, je ne suis pas bien cher et je suis même remboursé. Vous pouvez aussi me trouver gratuitement au planning familial. Mon pouvoir aussi est immense, alors n'hésitez pas à m'utiliser et je vous protégerai du mieux que je peux.
Et moi, vous me trouverez sur près d'un ou une étudiante sur deux, comme sur tous de celles et ceux qui ne se sont pas protégés, celles et ceux qui n'ont pas eu de cours d'éducation à la vie sexuelle et affective. Merci l'école.
Nous nous quittons sur ces bons mots. Merci encore à nos deux invités, Préservatif et Chlamydia. On se retrouve prochainement pour une nouvelle interview qui gratte. Bonne journée à tous.
Le gang des histoires.
Le gang.
Bim.
De retour sur le gang des hystéries, j'espère que cette nouvelle petite chronique vous a plu. On va revenir en détail sur nos deux invités de l'interview, Préservatif et Chlamydia. Je crois que Marin, Lily, vous aviez des quelques petites précisions déjà sur le préservatif, parce qu'on a discuté dans l'interview de...
C'était très très bien précise, puis on sent bien la polémique entre Chlamydia et préservatif. Mais juste du coup, là, effectivement, dans cette polémique, ça n'a pas eu le temps d'être placé. Mais moi, j'avais envie de dire que sur le préservatif interne...
Justement, prendre les qualificatifs internes, externes et pas féminin, masculin, parce qu'en fait, ils peuvent être utilisés par tout le monde en fonction des envies, des...
On a arrêté de dire, effectivement, parce que pendant un temps, on a dit préservatif masculin. Pour le plus vieux, celui qu'on connaît un peu le mieux.
Qui se met sur le sexe en érection.
Qui se met sur le sexe en érection et féminin pour celui qui se passe à l'intérieur du vagin.
Oui, il peut aussi se mettre sur un sextoy, sur un god ou autre.
Mais il peut se mettre aussi sur le pénis en érection. En fait, il suffit d'enlever l'anneau.
Oui, je parlais du dit masculin, essentiellement masculin. Du coup, c'est pas que pour les personnes équipées d'un pénis au naturel.
Et le interne, vu qu'il y a un anneau à l'intérieur qui permet en fait d'être maintenu à l'intérieur du vagin, mais ça, si on l'enlève, donc avant de le placer dans le vagin, évidemment, si on l'enlève, on peut le placer directement sur le pénis en érection.
Parce que c'est compliqué. La mise en place au niveau du vagin est un peu compliquée si on ne connaît pas bien son corps.
C'est un peu comme la tante Quichua, quand tu la remballes, il faut qu'il y ait un moment.
C'est surtout que dans la précipitation, dans le feu de l'action, il est moins fun. Enfin, il est difficilement mettable dans le feu de l'action. C'est-à-dire que du coup, il a cet avantage-là d'être à mettre avant. Ouais. Donc quand on est sans stress, chez soi, tranquille, en tant que
personne dotée d'un
vagin, donc on peut pouvoir le placer quelques heures avant, on peut le garder un petit moment. Moi, je voulais rajouter qu'en fait, il a été dit que c'était un usage strictement unique. Oui, certes, c'est-à-dire que le préservatif interne doit être utilisé avec qu'un seul ou une seule partenaire, mais on peut avoir plusieurs rapports sexuels dans le même moment, c'est-à-dire la même après-midi, la même soirée, la même nuit, le même matin, enfin quand vous voulez, quoi, un peu, vous baisez un peu quand vous voulez. Mais ça fonctionne comme un vagin, c'est-à-dire qu'on ne change pas de vagin entre deux relations sexuelles, quoi.
Il va être résistant, il va être...
mais je sais, parce que des fois, quand on explique ça, on voit la mine dégoûtée de certaines personnes dire « Oh, du coup, il y a déjà du sperme dedans, blablabla. » C'est comme un vagin.
Le sperme, il reste dedans.
Le sperme, il reste dedans, mais il reste dans le vagin également. Donc, si on couche deux fois de suite ensemble, il y a déjà du sperme, à moins qu'il y en ait qui se fassent chier à tout nettoyer. En fait, il ne faut pas faire ça, de toute façon.
Ça troue le préservatif.
Donc, on ne fait pas des trucs bizarres. Là. Non.
Non, non. Et en plus, comme on disait, si on n'arrive pas à le placer soi-même, il peut être posé sur un pénis en érection.
Ou un sextoy.
Et donc, par la pénétration, ça va se mettre en place directement dans le vagin. Mais c'est aussi utilisé pour des pénétrations anales.
Oui, parce qu'il est plus solide.
Il est plus solide et surtout, il est sans latex. Donc, pour les personnes qui sont allergiques au latex, ça marche aussi.
Ou alors, surtout, pour les personnes qui ont régulièrement des partenaires qui disent qu'ils sont allergiques au latex, parce qu'en fait, elle est quand même assez rare, l'allergie au latex. Mais bizarrement, il y a des personnes qui tombent tellement régulièrement sur des partenaires qui seraient allergiques au latex, c'est la solution.
Évidemment, j'arrive pas à bander avec.
Voilà, évidemment, ça va nécessairement impliquer derrière une conversation sur écoute, on va se détendre. Et puis, pourquoi tu veux pas en fait mettre de préservatif et remettre un peu de communication dans tout ça, effectivement.
Ok.
J'ai d'autres choses à dire. Ah, si, sur la chlamydia, on pourrait
dire. La chlamydia, pour votre information, au niveau des traitements surtout. Comme on l'a dit, effectivement, la chlamydia, on ne le détecte pas de suite. Il faut aller. Soit vous demandez à votre médecin une ordonnance pour que vous ayez la prise en charge par un laboratoire et le remboursement de votre dépistage, soit vous allez dans les Cégides, donc centre de dépistage et centre gratuit d'information, de dépistage et de, je ne sais jamais le dernier D ce qu'il veut dire, Et donc, vous aurez pris en charge gratuitement de votre dépistage et on peut vous donner donc le traitement en cas de contamination et d'infection à voilà, chlamydia.
Il ne faut effectivement pas attendre de se dire « tiens, j'ai d'éventuels symptômes », parce qu'on l'a dit, ça peut être asymptomatique, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Par exemple, on sait que l'infection à chlamydia est responsable de bon nombre, alors j'ai plus là en tête le nombre de cas de stérilité, par exemple, chez les femmes, hein, ou chez les porteuses d'utérus. Et on s'aperçoit, peut-être 10-15 ans après, que l'infection a couru et a bouché toutes les trompes et qu'on ne pourra plus avoir un recours à une procréation entièrement naturelle. Je ne sais pas, je ne dis pas de gros mots là quand je dis ça.
Pas assisté, par ailleurs, ouais.
Donc c'est important, effectivement, de s'en rendre compte avant.
En plus de l'avoir refilé à son ou ses partenaires.
Voilà, tous les partenaires suivant la première infection. Donc c'est vraiment important, effectivement, de faire des dépistages réguliers quand on sait qu'on a éventuellement pris des risques soi-même. Mais c'est aussi important de faire des dépistages tout compte fait réguliers quand on est en couple dit stabilisé, parce que tout compte fait, voilà, comme il y a peu... Il y a assez peu de communication. On ne sait jamais vraiment complètement ce que peut faire l'autre ou avoir fait l'autre il y a longtemps, si jamais on fait jamais de dépistage. Donc voilà, c'est mieux d'en faire de toute façon assez régulièrement à partir du moment où on a des relations sexuelles sans préservatif, par exemple, parce qu'on a un autre mode de contraceptif. Voilà, vaut mieux le faire régulièrement.
Et ça marche aussi pour toutes les IST, pas seulement pour la chlamydia.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est juste que là,
tu voulais aussi préciser que...
Pour les traitements, oui.
Ouais, donc le problème avec le... Parce qu'on est l'été, là.
Alors, effectivement, par rapport à ça... Alors, déjà, deux choses. Quand on regarde s'il y a, comme on a expliqué, les frottis, prise de sang, analyse urinaire, etc., on regarde juste si la bactérie est là. Le problème est que la bactérie a deux formes. La forme entre guillemets normale, et la forme résistante aux antibiotiques. Donc en fait, si on a la forme normale, donc il faut de toute façon refaire des tests une fois qu'on a vu qu'il y avait présence de la bactérie. Si le test est négatif, c'est entre guillemets la souche normale, et il n'y a besoin qu'une semaine de traitement d'antibiotiques, donc des médocs à prendre matin et soir, je crois, sur une semaine. Par contre, si c'est la souche résistante, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, voire 1 mois de prise, donc matin et soir, de ce médicament. Un des problèmes de ce médicament, comme vous venez de le dire, on arrive à l'été, c'est qu'il est interdit de s'exposer aux UV, parce que ça peut créer des plaques rouges qui restent à vie.
Super.
Donc, c'est quand même bien de se protéger, d'éviter de le choper et d'éviter de passer un été sous le parasol.
Donc, ça augure bien pour l'été.
Oui, voilà. Donc, protégez-vous. Et faites-vous dépister. Lily ?
Oui ?
Are you ready ?
Ah oui !
Alors,
c'est le moment.
Jingle.
Jingle.
Tawanda. La chronique badass.
Get away from her, you bitch !
Réveillez-vous, les filles ! On va laisser les hommes sauver l'univers ?
Dodge this.
Ça m'avait manqué.
Ah ouais, moi aussi, carrément. Dans la chronique badass aujourd'hui, je suis tellement contente de vous retrouver que je vais vous parler de Corona, une femme qui a vécu au XIIe siècle.
Vas-y donc. Déconne.
Oh, bon, pardon.
On en parlerait peut-être un peu plus tard de ce Corona.
Non, je m'étais dit, on va se changer un peu les idées et puis on va plutôt discuter histoire. Hein, un sujet tranquille, quoi. Un truc pas polémique.
C'est les vacances, voilà. On arrête avec
pas
l'histoire.
Pas polémique, mais si tu vas avoir une histoire avec un grand H. Stéphane, sort de ce corps. Donc l'histoire avec un grand H, et comment fait-on l'histoire ? Eh ouais, vous avez dû suivre ces dernières semaines la bataille qui se joue sur la lecture des histoires nationales au travers des figures des grands hommes. Ouais, des hommes. Parce qu'il y a l'histoire avec un grand H et puis il y a les hommes avec un grand Z. ceux qui ont mené les combats demandés par les gouvernants de l'époque. Bon, alors, combat. Ça s'est souvent traduit par des boucheries. Faut quand même dire ce qui est. Après, il y en a qui diront, ouais, mais on peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf. Hein. Ah, c'est sûr. Après, œuf. Bon, quand on parle du peuple, d'hommes, de pères, de fils, de frères, on aurait déjà pu se dire que bon nombre de grands hommes mis à l'honneur sur les places publiques ou dans les hauts lieux de pouvoir cachaient un peu ceux qui réellement avaient été sacrifiés. Hein ? Moi, je dis ça, je pose ça là, je dis rien. Hein ? Et puis, quand en fait de combat, il s'agit de massacres de populations civiles, donc en plus des pères, fils et tout le toutim, il y a eu aussi beaucoup de mères, de filles, de sœurs, etc. etc. Hein, vous me suivez ?
Oui, oui.
Hein, bon, bah là, il y a moyen qu'après des décennies ou des siècles, on arrive à s'accorder sur le fait que le peuple contemporain a besoin de héros et de héroïnes qui correspondent à l'entièreté des points de vue historiques. Hein, hein, non, non. Il s'agit surtout pas de tout jeter aux orties, mais de choisir de nouvelles figures à glorifier, de nouvelles valeurs, quoi. Surtout que les autres, bon, bah, elles ont déjà été glorifiées depuis un bon moment, malgré tout, hein. L'histoire avec un grand H les a déjà consacrées, on est d'accord ? On peut peut-être passer à autre chose, hein, me direz-vous. Une autre manière de regarder l'histoire, hein, de la montrer aussi, pourquoi pas ? Allez, un exemple, pour apaiser le débat, lol, allons plutôt chez les copines espagnoles et mexicaines. On évacue les polémiques locales. Voilà. 2019-2021, l'Espagne se lance dans la célébration des 500 ans de la conquête du Mexique. Vous voyez tout de suite où je veux en venir.
Hein ? Tout à fait.
Voilà. Évidemment, le Mexique ne voit pas trop les choses de la même manière. Hein ? De l'autre côté, on a donc un peuple issu d'un métissage de conquérants ou d'envahisseurs, selon le point de vue où on se place, et de peuples autochtones, ou celles et ceux qui étaient là avant. Hein, bon, eux, ils célèbrent les 500 ans de la création de certaines grandes villes qu'ils estiment avoir co-construites. Ok, jusque-là, tout le monde me suit.
Ouais.
Bon, il faut imaginer que celles et ceux qui étaient là depuis le début, alors un certain début, hein, ça se complique, s'agacent un peu de la fâcheuse manie qu'ont les Européens à jouer les découvreurs de l'eau chaude. Hein, genre, oh bah tiens, un continent, bah et nous, on savait pas qui était là avant. Ouais, hein, dis-moi pas que c'est pour vrai. Bah non, si on le savait pas, c'est que ça existait pas avant. Hein. On vient de le découvrir. Voilà, une bonne vieille manie hein, qu'on a un petit peu tout le temps.
Avec un bon vieux accent d'ici.
Voilà, ouais, ça je le fais bien. Mais bon, les Aztèques, les Incas, les Mayas, les Olmèques, les Mapuches, les Quechua. Ouais, alors eux, ils se sont même carrément fait piquer leur nom au profit d'une marque merdique produite par des femmes semi-esclaves au Bangladesh. Hein.
Ouais, désolé, je le truc, les citer hein. Tout à l'heure.
Voilà, les Totonèques, les Aymara, je m'excuse de pouvoir toutes les citer, mais en tout cas, tous ces peuples qu'on a collés dans un grand paquet dits civilisations précolombiennes. Hein. Toutes celles et ceux qui vivaient et s'organisaient là avant que Christophe Colomb et tous ses confrères ne débarquent et ne se mettent à tout réclamer comme leur dû et à tout massacrer pour piller. Ils ne peuvent pas compter pour du beurre. On peut quand même le considérer, ça. Hein. Mais dans notre manière toute européenne de regarder l'histoire, on les fait compter pour du beurre. Hein. Bon, bref. Vous me direz, quand on hiérarchise, on se dit que tous ces peuples ou civilisations, c'est plus du genre grand bordel, quoi, multiples tribus. Fallait que quelqu'un prenne les rênes de tout ça. Hein. C'est bien notre genre de penser à ça. Bon, j'ai envie de dire, rien de neuf dans l'orga humaine. Hein. C'est un peu comme, je sais pas moi, les Francs, les Goths, les Saxons, les Visigoths, les Pictes, les Burgondes, les Gaulois. Enfin, bref, c'est un peu comme chez nous, vous me direz. Hein ? D'accord ?
Tout à fait.
Bon, là, je vois quand même que vous commencez à être perdu. Vous me dites, ouais, bah d'accord, mais c'est qui la meuf badass dans l'histoire ? Hein ? Là ? Hein ?
Balance, vas-y,
ouais,
balance.
Allez, j'y viens. Aujourd'hui, dans la chronique badass... Bagasse. Aujourd'hui, dans la chronique badass, je vous raconte l'histoire de Malin Ali, ou Malin Tsin, née vers 1500, dans une famille noble Nahua, dans le golfe du Mexique. Nommée comme telle, hein, Malin Ali ou Malin Tsin, selon comment on prononçait à l'époque, hein, en honneur de la déesse de l'herbe. Elle est la fille aînée du seigneur de Peinala, qui se trouve à la frontière des empires aztèques et mayas. Son père a la mauvaise idée de mourir prématurément. Ouais, ça arrive souvent.
Quelle idée aussi.
À cette époque-là, voilà. Et sa mère, remariée, donne naissance à un fils, ce qui va faire passer. Ouais, voilà, tout de suite, vous voyez ce qui va se passer. Ce qui va faire passer donc Malin Ali, sans surprise. Puisque ces civilisations étaient bien comme les nôtres, patriarcales, donc elle va passer au second plan dans l'héritage. Et donc rapidement, on cherche à se débarrasser d'elle. Et l'entourage du nouveau mec de sa mère la vend à un premier marchand d'esclaves maya. Alors je dis premier parce qu'il y en a eu une série. Peu de détails sur le concret de sa vie d'esclave, puisque l'histoire est écrite par des hommes, on dit et on le répète, qui font donc peu de cas des oppressions spécifiques faites aux femmes. On peut imaginer quand même le misérable de sa vie, les viols, les coups, les humiliations, les avortements probablement, les accouchements peut-être aussi, et les enlèvements d'enfants.
Tout ça avec des aides.
Voilà, oui, tout ça avec des aides.
Comme les hommes.
Alors, de vente en vente, elle passe de maître en maître, de peuple en peuple. Elle est douée. Elle apprend vite. Les langues, notamment. Le fonctionnement des sociétés patriarcales qu'elle traverse. Elle a un caractère que d'autres diront de merde. Enfin, c'est une meuf badass, quoi, déjà. Sa famille, avant de la vendre, l'avait appelée Ténépal, aussi. Littéralement, qui veut dire « qui parle avec beaucoup de vitalité ».
C'est voilà. Joli, ça.
Voilà, on voit tout de suite à quoi ça fait référence pour une femme, n'est-ce pas ? Finalement, elle atterrit dans les mains de Hernán Cortés avec 20 autres jeunes filles qu'il fait baptiser avant de les offrir à ses capitaines. Faudrait pas baiser avec des hérétiques non plus. Hein. Bah. Donc, elle est renommée Marina. Cortés, fils de noble espagnol, imaginé notaire par ses parents, a probablement refusé l'ennui de cette charge pour aller jouer les chefs de guerre, mercenaires et chasseurs d'or pour le compte de l'empereur Charles Quint. On leur donne le charismatique nom de conquistadors. Ils sont nombreux et jouent à la guerre au milieu des familles aztèques et mayas qui jouent elles-mêmes à la guerre. Et Malintzin et les autres femmes sont au milieu.
Comme par hasard.
Voilà, l'éternelle même histoire. Le capitaine et maître de Malintzin devant rentrer au bercail, Cortés la récupère à son service car elle est jolie. et il découvre qu'elle est douée. Elle peut l'aider à comprendre les peuples qu'il rencontre. Elle comprend bien les enjeux de pouvoir et les guerres intestines. Ensemble, ils vont former un couple qui va conquérir ce qu'on appellera plus tard le Mexique. Par déformation, Malintzin devient Malinche, et le mot aussi Malinchismo, qui aujourd'hui induit l'idée de trahison et qui est utilisé au Mexique pour identifier les compatriotes qui ont trahi leurs origines et leur pays, ceux qui mélangèrent leur sang et leur culture avec les Européens et les autres influences étrangères. Vous voyez tout de suite, Malintzin, Malinche, Malinchismo, la trahison. Voilà.
Sympathique.
Et oui, si Malintzin est adulée et vue comme la mère du peuple mexicain par les nationalistes et suprémacistes espagnols et les Mexicains se rangeant du côté des conquistadors, elle est aussi détestée par les descendants des peuples massacrés par les Espagnols et vue comme une salope au service de l'ennemi. Hein, rien de neuf dans l'horizon du patriarcat, c'est sûr. Mais, aujourd'hui, que dire d'une femme qui comprit sûrement rapidement qu'il y avait peu de différence entre les hommes qu'elle connaissait déjà et ceux qui débarquèrent pour ne jamais repartir ? Rappelons-le, elle est vendue jeune, et quand elle est offerte à Cortés, elle a entre 15 ou 20 ans. Quelle différence pouvait lui faire la nationalité de son maître ? Jusqu'à ce qu'elle soit traitée en bras droit du conquérant à qui tout réussissait. Qu'elle trône à ses côtés lorsqu'il réduisait en esclavage ce qu'il avait vendu quelques années auparavant. Qui n'aurait pas eu envie de jubiler en voyant les gravures d'époque la représentant diriger les événements de sa propre autorité ? Malintzin ouvre un nouvel horizon pour regarder l'histoire entre le patriarcat et la suprématie européenne ou le prisme de genre pour lire l'histoire d'une femme contre tous. Alors Malintzin meurt vers 1530 ou 1550. L'histoire étant encore écrite par les hommes, on sait bien peu de choses de son destin après la chute de Cortés. Voilà.
Merci, Lily, pour cette belle histoire encore une fois. Et encore une fois, une femme qui a été invisibilisée, dont on n'entend pas parler dans les livres d'histoire à l'école, alors, ou très peu.
Surtout chez nous, parce que tout ce qu'on nous apprend de ce 15e siècle-là et 16e siècle-là, c'est... 1492, l'arrivée de Christophe Colomb, bim.
Point.
Voilà, point, c'est tout. Hein. Après, le reste, très peu de choses. Par contre, en Espagne, la Malinche, elle est connue, et c'est une figure polémique, parce que elle est tiraillée par, comme je le disais, entre l'extrême droite, divers courants politiques, entre l'extrême droite, qui la voit comme une alliée, et celle qui a permis effectivement la conquête, et la gauche, les mouvements humanistes peut-être, mais aussi au Mexique, ceux qui la voient comme une traîtresse. Moi, je propose un autre angle de vue. Je ne crois pas qu'elle, en ayant ramassé comme elle ait pu ramasser, ce soit poser plus de questions. À un moment, elle a fait le choix, certes du plus fort, hein, à un moment.
Mais a été stratégique pour elle, en fait.
Parce que de toute façon, une fois qu'on enlève les histoires de nationalité et d'origine, si on voit le prisme de genre, effectivement, c'était elle et les hommes, quoi. Donc il fallait qu'elle tire son épingle du jeu. Je pose ça là. Je sens que je vais avoir de nombreux appels de toutes les copines immigrées française en Espagne, voilà. J'attends vos appels.
Tu nous diras ça à la prochaine émission, alors.
Oui, non, sur parce que voilà, plusieurs fois à nouveau ce mot patriarcat qui revient, et juste sur cette situation de ben elle a un petit frère, oh là là, du coup elle perd son droit d'héritage premier. Ça me fait juste penser à un podcast que j'ai pu écouter aussi là ces derniers mois, qui est sorti il y a pas longtemps, alors je sais plus, mois d'avril, mois de mai.
Avril.
Donc, mois d'avril, un podcast de Victoire Toyon, donc Les couilles sur la table. Et le titre, Florian, puisque c'est toi qui l'as sous les yeux,
alors,
je ne peux
pas
l'écorcher.
Alors, c'est le numéro 59, le podcast numéro 59 des couilles sur la table, Le patrimoine, enjeu capital.
Voilà, un magnifique podcast à écouter, réécouter, qui est... voilà, qui nous apprend tellement de choses, ou qui nous replace les choses dans un contexte ouais, assez... Ah, ça pique un peu, hein, mais c'est très intéressant à connaître, vraiment.
La première phrase, c'est « Pourquoi en France, les hommes sont-ils plus riches que les femmes et pourquoi le sont-ils de plus en plus ?»
Ouais, ça détricote pas mal de choses. Vaste
programme.
Toujours ces fameux hommes avec un grand Z.
Z2.
Oui.
C'est malheureusement la fin de notre émission. Nous allons devoir nous quitter, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt. Merci Marin, merci Lydie.
Tchuss, salut Flo.
Et
salut Lily.
On espère vous dire au mois prochain.
Et à tout bientôt.
À tout bientôt.
À bientôt.